إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يعني qu'est-ce qu'on récite avant de commencer les durous et les khutab. On appelle ça khutbatul haja. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il commençait à donner une khutba, ou lorsqu'il s'adressait aux sahaba, avant de faire un mariage, avant de faire n'importe quoi, quand il s'adressait aux musulmans, il commençait toujours par cette introduction. Hein? Et dans cette introduction-là, il y a les louanges pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le témoignage de la ilaha illallah, il y a la demande du pardon, il y a beaucoup d'autres aspects qui concernent les aspects de la foi, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter des innovations et de s'accrocher à la sunna, ainsi de suite. Donc, après avoir dit ça, on va aujourd'hui lire un livre ensemble et c'est un livre qui est écrit par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Hafizahullah, et c'est un des ulama actuellement qui est en Arabie Saoudite, un des grands, parmi les grands mashaykh de la da'wa salafiyya, qui appelle au Coran et à la sunna et qui combat toute forme d'innovation et de bid'ah yani, qui sont répandues dans la umma aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala ajoute ses efforts, inshallah, dans les hasanat du shaykh yani, au jour de la résurrection et qu'il accepte. Ça, yani, étant donné qu'on est en train de lire son livre. Hein. Et donc, non seulement nous-mêmes, on a des hasanats du fait qu'on est en train de se rappeler et de lire yani, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des ulama, mais en même temps, ça leur ramène eux aussi des hasanats, puisque ce sont eux qui ont fait des efforts pour réunir ces connaissances-là et pour nous les apporter. Donc le cheikh dit bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. As-su'al al-awwal, fadilat al-shaykh, ma hiya as-sifat allati yanbaghi an yatahalla biha ash-shab al-muslim. Donc la première question qui a été posée au cheikh dans ce livre c'est, oh noble cheikh, fadilat al-shaykh, quelles sont les caractéristiques que le jeune musulman doit posséder, hein, par lesquelles il yani, se part. Hein, les belles caractéristiques que le jeune musulman doit posséder dans sa religion. Donc le cheikh il répond al-jawab as-sifat allati yajib an yatahalla biha ash-shab al-muslim hiya an yuhaqqiqa ma'na al-islam fi hayatihi. Fal-islam ma'nahu al-istislam lillah wa ma'na al-istislam lillah imtithal li-amrihi واجتناب لنهيه ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به جملة وتفصيلا قولا وفعلا وعملا أخلاقا وسلوكا. لشيخ الزي la réponse à cette question c'est que les caractéristiques que le jeune musulman doit posséder et il doit avoir c'est que il doit réaliser la signification de l'islam dans sa vie. Et la signification de l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est al-istislam. Al-istislam, qu'est-ce que ça veut dire al-istislam? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la réponse? Non. La prochaine fois, si quelqu'un veut répondre, il lève sa main. et puis, Inch'Allah, il répond par la suite si je lui dis de répondre. D'accord? Donc, comme le frère, il a dit, Al-Islam, ça veut dire de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire de se soumettre? Tu comprends? Qui peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala? Naam, barakallahu fiq, ça c'est de s'adonner à Dieu, ça c'est une des significations. Mais ça veut dire, comme le Cheikh il dit, de respecter et d'implémenter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit de faire. Se soumettre à Allah, c'est ce que ça signifie. Après le Cheikh il dit, et de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il a ramené, que ce soit de façon globale, dans tout ce que ça comprend, ou de façon spécifique, dans les détails de ce qu'il a amené également. Et puis après, il dit que on doit suivre ces choses-là dans tout ce qui a été ramené, dans les paroles, dans les actions, et dans notre comportement, et dans notre façon de suivre et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit essayer d'implémenter ses ordres, et de s'écarter de ce qu'il a interdit dans l'exemple, en suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements, dans nos croyances, et dans tout, dans tous les aspects de la vie. C'est ça, de réaliser la signification de l'islam. Le cheikh il dit, فَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ قُدْوَةِ فَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ قُدْوَةِ إِلَّا الْأَنْبِيَا وَالرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ هكذا يتخذ المسلم قدوة من قدوة من أهل الصلاح والفلاح فهم دعاة إلى الله فينبغي أن يكون داعية إلى الله بما معه من العلم وهم أهل الخشية من الله عز وجل فيجب أن يكون المسلم صاحب خشية من الله عز وجل وهم المحافظون على فرائض الله سرا وعلنا حضرا وسفرا وعلى أي حال وعلى أي حال فيجب على المسلم أن يكون كذلك. Le cheikh il dit, le musulman, il n'a pas d'autre exemple à suivre excepté les messagers et les prophètes et les gens qui ont suivi parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux-là qui sont nos exemples à suivre dans notre façon de vivre, dans notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autres personnes en dehors de ceux-là qui sont nos exemples. Parce qu'il y a des gens qui parfois prennent d'autres exemples et d'autres références pour adorer Allah et pour suivre l'islam. Et ils ont mal compris dans ce cas-là parce que les gens qui sont venus après, les gens qui vivent aujourd'hui, ne sont pas des références si qu'est-ce qu'ils font n'est pas supporté par le Coran et par la Sunna. Il faut retourner à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a amené. Il y a des gens qui voient un cheikh et ils voient que le cheikh il fait quelque chose. Et ils disent, ah, si le cheikh l'a fait, ça veut dire que c'est halal. Si le cheikh l'a fait, ça veut dire que c'est bon. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que le cheikh c'est un être humain, il peut se tromper, il n'est pas un prophète, il n'est pas infaillible. Le seul qui est l'exemple à suivre et qui ne se trompe pas, dans la transmission du message et dans l'application de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que c'est lui vers qui on doit se retourner pour apprendre et comprendre et appliquer et pratiquer notre religion qui est l'islam. Après le cheikh il dit également, les gens qui ont suivi les messagers parmi les sahaba, parmi les atba', c'est-à-dire ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure manière, de la meilleure façon. Donc on prend de ceux-là, le musulman il prend de ceux-là un exemple à suivre, parce que ce sont ceux qui ont appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba quand ils ont appris l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas dit je vais apprendre l'islam pour moi-même et puis c'est fini. Après je vais m'asseoir dans ma maison et je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je vais aller à la mosquée et puis c'est fini. Non. Non seulement tu pratiques l'islam, non seulement tu apprends l'islam pour toi-même, mais par la suite tu as une responsabilité, c'est d'enseigner et d'appeler les autres à pratiquer l'islam eux aussi, et de faire ad-da'wa. Qu'est-ce qu'on appelle ad-da'wa? Ad-da'wa ça veut dire quoi? Ça veut dire inviter les gens, appeler les gens à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit, tu dois être dans cet exemple-là, et d'appeler les gens et d'inviter les gens à l'islam. Et le cheikh il dit, selon ce qu'il a de science avec lui, c'est-à-dire selon ton niveau de connaissance, selon ce que tu possèdes de l'islam. Tu as appris une ayah, tu l'apprends à quelqu'un. Tu as appris un hadith, tu l'enseignes à quelqu'un. Tu as appris que la salat est obligatoire, 5 fois par jour, alors tu dis ça à quelqu'un qui ne fait pas la salat. Fais ta salat. Tu vois que quelqu'un, par exemple, il fait quelque chose qui est haram, il boit de l'alcool, ou bien il fait le zina, ou il fait des péchés comme ça, tu lui dis, ça c'est haram mon frère, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? Tu fais la da'wah selon ce que tu possèdes de ilm, et selon ce que tu possèdes de science. Tu ne fais pas juste dire, moi je suis musulman, moi je ne fais pas le haram. Mais tu vois tout le monde autour de toi qui fait le haram et tu dis rien. Et tu ne leur parles pas. Et tu ne leur interdis pas le mal. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas le vrai musulman. Le vrai musulman, quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas correct, il explique à cette personne. Il va lui parler. Et il essaie de lui expliquer que de faire ça, c'est haram et que ce n'est pas bon. Que c'est pas correct et que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ça, de même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit que ce sont ceux-là, ceux qui suivent cet exemple et qui invitent les gens à l'islam, ce sont ceux-là qui font partie de ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Ce sont ceux-là qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un te dit, moi j'ai la crainte d'Allah, et puis il fait pas ce qu'Allah a ordonné, il ne s'éloigne pas de ce qu'Allah a interdit, et quand il voit les gens faire ce qui est haram, il ne leur dit pas que c'est haram, et quand il voit quelqu'un qui ne fait pas ce qui est obligatoire, il ne lui dit pas ça c'est obligatoire, ceux-là ils n'ont pas craint Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Ils n'ont pas complété comme il faut la signification de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, Cheikh al-Dif, يجب أن يكون المسلم صاحب خشية من الله. Le musulman, il doit être celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire avoir la crainte? Ça veut dire que tu as peur de faire ce que Allah a interdit, et tu as peur de faire ce que, de pas faire ce que Allah t'a ordonné de faire, parce que tu as peur de son châtiment dans l'au-delà. Lorsque tu vas être mort, après la mort, il y a le jugement, et tu as peur de tomber dans l'enfer à cause de tes péchés. Donc tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم المحافظون على الفرائض الله سرا وعلنا. Ce sont ceux qui préservent et gardent les obligations et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils sont seuls, en secret, ou quand ils sont devant les gens en public. Ils font pas juste le bien quand ils sont devant les gens, puis quand ils sont en public, quand ils sont en secret, ou quand ils sont seuls, là ils font le péché. Ça c'est pas le vrai musulman. Ou c'est pas celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le bien quand il est devant les gens, et quand il est en secret et quand il est caché, la même chose. Il s'écarte de ce qui est haram et il fait ce qui est obligatoire. Qu'il soit devant les gens ou qu'il soit seul. Qu'il soit résident là où il est, c'est-à-dire qu'il soit en voyage ou qu'il soit pas en voyage. Il doit être toujours dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Donc, après le cheikh dit, فَإِذَا رَأَ الْمُسْلِمُ مِنْ نَفْسِهِ التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ رَبِّهِ وَهَدِي نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَذَلِكَ عَلَامَةُ الْخَيْرِ وَذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الصَّلَاحِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَلَى ذَلِكَ وَيَسْتَمْسِكْ بِهِ وَإِنْ رَأَى مِنْ نَفْسِهِ الميل إلى دعاة الشر والزيغ والفساد والانحراف ومسيراتهم إلى إساءتهم فقد أساء إلى نفسه حيث وضع يده في يد الشيطان فقاده بناصيته إلى جهنم وبئس المصير. Donc le cheikh il dit ici que si le musulman il voit en lui-même qu'il est accroché au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, et qu'il est accroché à la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah, Alors ça, c'est un signe qu'il est sur le bien. C'est un signe de bien que cette personne-là, elle est sur al-khayr, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien. Et ça, c'est le signe qu'il est correct, hein, qu'il a une foi et une action qui est correcte. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alhamdulillah qu'il est sur cette voie-là et qu'il s'accroche sur cette voie. Toutefois, s'il voit que, au contraire, il commence à se pencher vers qu'est-ce qui est mauvais et qu'il a un penchant vers les gens qui appellent au mal, qui appellent à qu'est-ce qui est haram, qui appellent à la musique, qui appellent à qu'est-ce qui passe dans parfois la télévision, des choses de perversité, des choses haram, ou bien qui penche vers les choses de haram aussi, comme par exemple les gens qui boivent de l'alcool, ou les gens qui vont avec les femmes, qui ne sont pas mariés avec des femmes et qui ont des rapports en dehors du mariage avec des femmes. Ça, c'est haram. Hein? Une fois, il y avait un frère, et il ne savait pas que d'avoir une copine, c'était haram. Il pensait que c'était permis. Il dit, mais c'est pas grave, c'est une copine. Hein? C'est pas grave faire ça, non. C'est haram. Si tu veux avoir une femme, tu vas te marier. Tu vas voir la famille, tu vas voir le père, tu dis au père, moi je veux me marier, je veux demander la main de votre fille. Et là tu te maries et tu fais les choses halal. Tu ne vas pas faire les choses haram que Allah nous a interdit de faire. Ensuite, le cheikh il dit, si tu vois que tu as en toi-même ce penchant-là vers ce qui est mauvais, alors ça veut dire que c'est un signe que tu t'es fait du mal à toi-même et que tu as mis ta main dans la main du shaytan. Tu as mis ta main dans la main du diable et il est en train de te diriger et de te tirer par tes cheveux vers l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Le cheikh il dit, فَلْيَرْحَمْ كُلْ مُسْلِمْ نَفْسَهُ بِالْأَخَصِ وَبِالْأَخَصِ لِيَرْحَمْ الشَّبَابِ أَنْفُسُهُمْ لِيَرْحَمُوهُمْ أَوَّلًا بِمُجَالَسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ وثانيا بمجالس الذكر الشرعي وحلقاته ثالثا بنبذ الشر وأهله ورابعا بالأخذ بنصيب وافر من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وبقضاء الحياة في كل نافع ومفيد لتكون مباركة وطيبة والحياة لا تكون مباركة ولا تكون طيبة ولا تكون سعيدة إلا إذا كانت حياة تعلم وقراءة وحياة تفقه في دين الله وحياة مجالس للأخيار وهذه هي الحياة الطيبة المباركة التي يجب أن يحرص عليها كل مسلم ومسلمة لا سيما الشباب منهم الذين هم في سن مبكرة وهم أطهار في سنهم هذه حقا إنه يجب عليهم أن يحافظوا على طهرهم وعلى نظافتهم وأن لا يندسوا ولا يدنسوا القلوب ولا يدنسوا الجوارح بدرن المعاصي والانحرافات التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن وتفضي بسالكيها إلى عذاب النار وبئس القرار. Le cheikh il dit donc que le musulman il doit être miséricordieux envers lui-même, il se fait de la miséricorde envers lui-même, en particulier les jeunes parmi eux, hein, et pour arriver à se faire miséricorde à eux-mêmes, ils ont des choses à respecter et des choses à faire. Parmi ces choses, la première chose que le cheikh il mentionne, c'est بمجالسة أهل العلم والصلاح c'est-à-dire de chercher la compagnie et de s'asseoir avec les hommes de science et des gens qui ont un islam qui est bon et qui est correct, de rester avec ces gens-là, de chercher leur compagnie, de rester à proximité de ces hommes-là pour profiter de leur science, pour profiter de leur comportement, pour profiter du bien qu'ils ont en eux en les regardant, en les observant, en écoutant ce qu'ils disent et en apprenant de la science qu'ils enseignent aux autres. Ça, c'est très important. Hein? Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate des fois, c'est que les gens préfèrent regarder la télévision ou regarder, écouter de la musique ou faire d'autres distractions des jeux plutôt que de prendre du temps pour profiter du ilm, pour profiter de la science et des hommes de science. Hein? Et vous êtes chanceux d'être dans un pays musulman où il y a des hommes de science, où il y a des gens qui ont étudié l'islam. Vous pouvez aller vers eux, vous pouvez aller chercher la science auprès d'eux. Tandis qu'il y a des musulmans actuellement qui vivent dans des pays loin où il n'y a pas de savants, où il n'y a pas d'hommes de science, où il n'y a personne pour leur enseigner le Coran, où il n'y a personne pour leur enseigner la Sunna, et donc qu'ils restent là comme ça. Et ils veulent apprendre, mais ils n'ont pas la possibilité. Donc vous avez cette ni'ma, cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous êtes à proximité des gens de science, que vous pouvez aller apprendre si vous voulez. Et donc il faut juste avoir la volonté et la sincérité et faire les efforts nécessaires, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir la porte de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. » Celui qui suit un chemin dans lequel il va apprendre une science, Allah subhanahu wa ta'ala, par cette voie, va lui faciliter un chemin vers le paradis. En cherchant la science de la religion, Allah te donne un chemin vers le paradis. Donc est-ce qu'il y a un meilleur chemin que ça? Est-ce qu'il y a une meilleure voie que ça? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire l'effort de chercher cette science. Et en particulier lorsque vous êtes jeune. Parce que dites-vous que la science que vous avez acquise, lorsque vous êtes jeune, elle reste avec vous, inshallah, jusqu'à ce que vous devenez vieux. Et quand vous êtes vieux et que vous avez la science, eh bien vous enseignez par la suite aux jeunes. Et vous êtes une source de lumière et de guidance pour toute une génération par la suite. Hein? Et donc ça c'est un bien. Maintenant vous avez des gens, des ulamas de l'islam, qui sont des hommes très avancés en âge. Parfois vous les voyez 70 ans, 80 ans, hein? 90 ans. Vous savez qu'est-ce qu'ils font au Canada ? Ou dans les pays occidentaux, quand quelqu'un atteint cet âge, qu'est-ce qu'ils font avec ces gens-là? Ils les mettent dans des maisons pour les personnes âgées, ils les mettent dans des petites chambres, et plus personne va les visiter, et ils meurent comme ça à l'hôpital. Hein? Alors que ici, alhamdoulilah, les personnes âgées, ils ont leur respect, et en même temps, s'ils ont la science, ils enseignent aux jeunes générations, et ils profitent aux jeunes. Mais là-bas, non. Les gens deviennent comme des oiseaux. Quand l'oiseau, il est petit, il quitte son nid, il ne revient plus jamais voir ses parents par la suite. Eh bien, ces gens-là, c'est comme ça. Ils ont des enfants, les enfants s'en vont à gauche, à droite, et plus tard, ils laissent leurs parents mourir comme ça, tout seuls. Et ils les oublient. En grande partie, on voit ça. Hein? Donc, l'importance de rester avec les hommes de science, les hommes de connaissance et d'apprendre avec eux. Le cheikh il dit, deuxièmement, bimajal, c'est zikri al-shar'i wa halaqatihi, c'est-à-dire de s'asseoir dans les cercles où on étudie la science islamique, hein, le Coran, hadith, sunna, hein, ça c'est important de rester dans cet environnement-là pour apprendre mieux notre religion, pour comprendre mieux notre religion. Hein. Et le cheikh il dit comme troisième chose, binabdhi shar wa ahli, hein, et de s'écarter des gens qui font le mal. Vous connaissez des gens qui font des péchés, qui font des choses haram, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui écoutent de la musique, qui font des péchés. Vous restez loin de ces gens-là. Parce que c'est pas des gens qui vous amènent vers le bien, c'est des gens qui vous appellent vers le mal. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui veulent du bien pour vous et qui vous appellent au bien, et il y a des gens qui veulent du mal pour vous et qui vous appellent au mal. Et aujourd'hui, à l'époque actuelle dans laquelle on vit, beaucoup de gens, ils ont de la difficulté à distinguer qui veut du bien et qui veut pas du bien pour toi. Et il y en a qui pensent que le vrai ami, c'est la personne qui est gentille avec toi, qui t'aide et qui est toujours correct avec toi, sauf qu'il t'invite à faire des choses haram et à désobéir à Allah. Si c'est l'heure de la prière, il dit non, on va pas à la mosquée, viens on va aller là-bas, on va aller faire quelque chose, on va aller ailleurs. Et il t'éloigne de la mosquée, il t'éloigne du Coran, il t'éloigne de la Sunna, il t'éloigne des gens de bien, hein, et puis après il dit qu'il est ton ami. Celui-là c'est ton ennemi, c'est pas ton ami. Et au jour de la résurrection, les gens qui s'aimaient de cette manière-là, ils vont devenir des ennemis les uns pour les autres. الله سبحانه وتعالى يقول القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين hein au jour de la résurrection ces gens-là ils vont tous se détester les uns les autres et ils vont se maudire les uns les autres ils vont s'insulter les uns les autres parce que ils vont décider de ta faute si je vais aller en enfer parce que je t'ai écouté et l'autre va dire non c'est pas de ma faute c'est toi qui m'as suivi hein je t'ai pas forcé Et donc ils vont se monter, ils vont s'insulter les uns les autres. Tandis que les gens qui étaient dans le bien et qui s'aimaient dans le bien sont restés ensemble les uns avec les autres dans le bien et au jour de la résurrection ils sont des akhillah, ils vont être des amis proches et ils vont s'aimer. Warabi'an, le chef est quatrièmement de prendre une grosse portion de la science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour pouvoir vivre une vie qui est bénéfique. Dans cette vie-là que tu vas vivre, tu vas utiliser ta vie dans qu'est-ce qui est bon et dans qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. Qu'est-ce qui est profitable et qu'est-ce qui est béni. Ta vie sera remplie de baraka. Ta vie va être remplie de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon. Et tu vas vivre une vie heureuse. Hein? Une vie heureuse. Et ça, c'est uniquement si ta vie est une vie de science, d'éducation hein, et de lecture et d'apprentissage et de compréhension. Hein. Quand quelqu'un il a du ilm, quand quelqu'un il a de la science, quand quelqu'un il a de la compréhension, vous pouvez le voir même dans son regard, comment il vous regarde, comment il vous observe. Hein. Vous sentez déjà que dans ses yeux il comprend qu'est-ce que vous dites. Juste ça c'est une part de la science et de l'intelligence et de la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui cherchent la science et qui aiment la science. Ça fait vivre leur cœur. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du Coran, dans le Coran, il parle du Coran, il l'appelle ruh. Il dit que c'est un ruh. Qu'est-ce que ça veut dire? Une âme. C'est quelque chose qui te fait vivre. Quand tu apprends cette science, elle fait vivre ton cœur. Elle t'ouvre. Le cœur, hein. Et donc, ceux qui ne se rappellent pas d'Allah et qui n'apprennent pas la révélation d'Allah, vous les voyez marcher dans la rue comme des zombies, ils sont comme des morts, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance et ils ne se rappellent pas d'Allah. Donc, le cheikh il dit, chaque musulman, chaque musulmane, hein, et en particulier les jeunes parmi eux, ils doivent, à partir d'un jeune âge, hein, faire leur effort pour rester sur la droiture, rester dans le bien, rester pur. Rester pur. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit que lorsque quelqu'un il est jeune, il est écarté de ce qui est mauvais, de ce qui est haram pour lui, il reste pur et il garde son cœur pur. D'accord? Et il garde son corps pur également de tout ce qui pourrait saler ou rentrer de l'impureté dans son cœur. Et l'amener vers la déviation, et l'amener vers qu'est-ce qui plaît au shaitan, et qu'est-ce qui désobéit, qu'est-ce qui déplaît, et qu'est-ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui amène quelqu'un à tomber dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dangereux. D'accord? Tout ça c'est des choses, chacun d'entre nous on est conscient de ça. Si on a étudié l'islam, puis on a appris l'islam, on connaît ces choses-là déjà. Mais c'est un rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Et rappelle, car le rappel il est bénéfique aux croyants. Après le shaykh, on lui a posé une deuxième question. « فَضِيلَةُ الشَّيْخ مَا هِيَ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَةَ لِلْتَأْصِيلِ الْعِلْمِ وَمَا هِيَ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَةَ لِدِرَاسَةِ عِلْمِ الْعَقِيدَةِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وبأيهما يبدأ طالب العلم. Le cheikh il dit, la question au cheikh c'est, Fadilatul Cheikh, quelle est la meilleure manière d'étudier ou d'avoir un fondement dans la science islamique? Et c'est quoi la meilleure manière d'étudier la science de l'aqida et la science du tafsir et du fiqh et du hadith. Et par laquelle de ces sciences-là l'étudiant doit-il commencer? Le cheikh, il répond à cette question-là et il dit: هذا السؤال يدل على أن سائله طالب علم يلتمس الطريق الصحيح في التحصيل العلمي. والحقيقة أن طالب العلم يحتاج أولا إلى شيخ من أشياخ العلم الشرعي السائرين على نهج السلف الصالحين، فإن اختيار الشيخ واختيار الكتاب من الطرق الصحيحة الشرعية لتحصيل العلم. Le cheikh il dit que d'après cette question, on peut comprendre que la personne qui demande à ce sujet-là est une personne qui veut chercher la science et qui veut connaître la bonne manière d'acquérir un fondement dans la science et dans la compréhension de l'islam. Et il dit, en réalité, l'étudiant en sciences islamiques, il a besoin premièrement de trouver un bon cheikh pour étudier les sciences, avec le cheikh qui va lui apprendre les fondements et les bases de sa religion. Ça, c'est la première chose. Hein? On ne peut pas apprendre l'islam, ou apprendre la religion, ou apprendre n'importe quelle autre chose, c'est-à-dire même la médecine. Tu veux devenir boulanger, tu veux devenir pâtissier, tu veux devenir mécanicien, tu veux devenir médecin, tu veux devenir dentiste, est-ce que tu peux apprendre tout seul? Tu peux apprendre ça dans les livres, tu veux apprendre comment réparer les dents ou réparer un moteur d'une voiture, tu vas apprendre ça dans un livre tout seul, et puis après tu vas apprendre un moteur, tu vas essayer de le réparer tout seul toi-même avec le livre, ça c'est pas possible. Eh bien la même chose, hein? Tu veux guérir quelqu'un, tu veux prendre un livre, tu vas faire une chirurgie toi-même, tu vas prendre un couteau, tu vas l'ouvrir son ventre pour essayer de faire l'opération toi-même avec le livre, tu peux pas faire ça. Eh bien la science islamique c'est la même chose, tu ne peux pas apprendre la science islamique toute seule avec des livres, parce que si tu penses que tu vas apprendre la science islamique toute seule avec des livres, tu vas faire beaucoup d'erreurs, hein. Imaginez la personne qui veut faire une opération, il veut devenir médecin ou il veut essayer de guérir quelqu'un, il prend un couteau, il coupe quelqu'un, il pense qu'il va faire une opération comme ça, est-ce qu'il va faire plus de bien ou plus de mal? Plus de mal. Donc il doit faire attention, celui qui veut apprendre l'islam, retourner aux savants de l'islam, retourner aux ulama de l'islam, pour étudier cette religion-là et avoir une bonne compréhension pour être capable de la comprendre comme il faut. Parce que l'erreur de beaucoup d'entre les jeunes musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas retourner aux hommes de science et ils pensent qu'ils peuvent apprendre la religion musulmane tout seuls. Et donc, qu'est-ce qui arrive comme résultat de ça par la suite? C'est que vous les voyez tomber dans plein d'erreurs, dans plein d'extrémisme, dans toutes sortes de formes d'exagération et d'égarement par la suite. Et vous les voyez par la suite qui commencent à dire un tel savant il est kafir, ou un tel savant il est égaré. Hein? Il pense qu'il est à un niveau, il est capable de dire lui il est pas bon, lui il est bon. Alors qu'il ne sait même pas lui-même rien de l'islam. Hein? Et il commence à tomber dans l'extrémisme, peut-être il va tomber dans le terrorisme. Il va commencer à dire, moi je vais défendre l'islam, je vais aller mettre des bombes à gauche et à droite. Comme certains parmi les gens égarés, ils font maintenant dans certains pays musulmans. Ils pensent que de tuer les innocents et de faire du terrorisme, que ça c'est l'islam et que ça c'est défendre l'islam. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire couler une goutte de sang d'un innocent. Hein? Donc ça c'est des exemples d'extrémisme et d'égarement. Maintenant il y a des jeunes. Il y a des gens qui commencent à lire des livres comme ça, ils pensent qu'ils ont appris quelque chose, et ils commencent à dire un tel est kafir, un tel est yani fasiq, ou mubtadi, ou des choses de ce genre. Et ils n'ont rien appris de la religion. Hein? C'est juste qu'ils ont lu des livres et ils pensent qu'ils ont compris quelque chose. Et ça c'est très dangereux, et ça mène à l'égarement, ça mène à l'extrémisme. Hein? Et donc il faut faire attention à ces gens-là. Nommez-moi dans l'histoire de l'islam, depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, des savants connus qui ont appris tout seul avec des livres seulement. Vous ne trouvez aucun. Hein? L'imam al-Bukhari seulement, l'imam al-Bukhari qui a écrit Sahih al-Bukhari, il avait minimum 1000 cheikhs avec qui il a étudié le hadith. Hein? Est-ce que vous pensez qu'il a appris le hadith tout seul en lisant les livres? Non. Il a appris avec les ulama et il a appris la science de la bouche des ulama. C'est pas une chose que tu prends les livres, tu apprends tout seul. Non. Et puis, je pourrais vous donner plein d'exemples, je pourrais vous donner d'autres exemples aussi, la même chose. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Combien vous pensez de ulama, avec combien de savants vous pensez qu'il a étudié? Des centaines. Hein? C'est pas juste, il est venu, il a lu un livre, et le lendemain, il a dit, je vais donner des fatawas. Non. C'est un homme, non seulement il a étudié avec des centaines de ulama, son père était un savant de l'islam. Son grand-père était un savant de l'islam. Son arrière-grand-père était un savant de l'islam. Ce sont des gens qui sont nés et qui ont grandi dans des maisons de sciences islamiques et qui ont étudié par la suite avec plein d'autres ulama. À 18 ans, les savants de sa ville lui ont donné la permission de donner des fatwas. Ils n'ont pas décidé eux-mêmes, je vais donner des fatwas. Non, ils ont eu la permission de ses professeurs. Ils ont dit, là maintenant tu peux donner des fatwas. Hein? Nous, aujourd'hui, c'est très facile. On dirait qu'on veut apprendre la recette pour faire des tartes aux pommes. Hein? On parle de religion comme si c'était la mécanique ou des choses de ce genre. Et même dans la mécanique, on va pas parler. On est gêné, on a peur de parler. Si on va parler de chimie, de biologie, de physique, hein? Ou de n'importe quel autre domaine, ingénierie ou autre, on va être gêné de prononcer une parole si on n'a pas la connaissance exacte de ce qu'on prononce ou de ce qu'on dit dans ces choses de la dunya. Mais dans la religion, certains, ils ont l'impression que c'est ouvert et que tout le monde peut dire son opinion. Hein. Et maintenant, c'est à ça que beaucoup de gens appellent. Ils disent la liberté d'expression, la liberté d'opinion, hein. Tout le monde a le droit d'avoir son propre point de vue. Hein. Pourquoi ils disent pas ça quand ils parlent de science, quand ils parlent d'informatique? Hein? Tu veux programmer un logiciel et tu dis chacun a son point de vue, puis tu suis pas les règles et la formule. Est-ce que tu penses que tu vas arriver à un résultat? Jamais. Eh ben, c'est la même chose dans l'islam. Tu dois suivre les règles et tu dois apprendre la religion avec les ulama. Bien entendu, avec les ulama qui suivent le Coran et la Sunna et qui sont sur la bonne voie et sur le bon manhaj. Et pas, bien entendu, des gens de bid'a ou des gens qui sont sur l'innovation. Hein? Parce que si tu vas apprendre avec ces gens-là, ils vont t'égarer. Wal'iyadu billah. Hein? Il y a des gens qui sont parmi des gens de bid'a, par exemple, quand des gens viennent étudier avec eux, au lieu de les faire avancer dans la science, ils les font reculer dans la science. Et ils les font devenir des esclaves pour eux. Et ils les bloquent, ils les empêchent d'apprendre le Coran et la Sunna pour les contrôler et pour les faire travailler pour eux, pour faire augmenter leur richesse personnelle, au lieu de faire augmenter leur savoir et leur compréhension de l'islam. Et ça, vous avez ça dans les exemples de turuq et des shuyukh de turuq soufiya. Hein. Ils font travailler les gens pour eux et ramasser de l'argent pour eux, et après ils disent « envoyez-nous l'argent ». Et eux, ils s'enrichissent et ils s'enrichissent et ils s'enrichissent, et ils enseignent quoi? Rien. Hein. Les gens, ils ressortent avec aucune connaissance, ni du Coran, ni de la Sunna, ni de la compréhension de l'islam et des salafs. Et donc c'est pour ça que, alhamdoulilah, les ulama qui enseignent le Coran et la Sunna, ils font diffuser la science à tout le monde. Et ils leur enseignent qu'est-ce qui vient d'Allah et qu'est-ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc ça c'est très important, fondamental, de chercher le bon cheikh. Et ensuite, le cheikh il dit par la suite, et de choisir le bon livre également. Et le cheikh, en principe, si tu trouves un cheikh qui est bon, il va t'indiquer les bons livres à étudier pour commencer. Et il va te donner des bons conseils pour te guider sur le droit chemin. Le cheikh, il dit, « وَأَمَّا اخْتِيَارُ فُنُونَ الْعِلْمِ الشَّرْعِ مِنْ عَقِيدَةٍ وَتَفْسِيرٍ وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ وَلُغَةٍ وَسِيرَةٍ نَبَوِيَّةٍ هذه العلوم لا شك أنها تحتاج إلى تأصيل وإلى حكمة في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ومن إعداد الكتب من مستوى إلى مستوى فإذا أتينا إلى العقيدة وأردنا التأصيل الصحيح فليبدأ طالب العلم بدراسة الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ففيها من العلم الغزير في هذا الكتاب الشيء الكثير الذي لا يجهله طلاب العلم السائرين على منهج السلف الصالح في طلب الفقه في الدين. Le cheikh il explique, il dit que en ce qui concerne le choix des matières dans lesquelles tu veux étudier dans les sciences islamiques, que ce soit l'aqida, la croyance, ou que ce soit le tafsir, l'interprétation du Coran, ou que ce soit le hadith, ou que ce soit le fiqh, hein, comment adorer Allah, les applications de la jurisprudence islamique, al-lugha, la langue arabe, ou bien al-sira al-nabawiya, hein, la biographie et la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces sciences, il n'y a pas de doute qu'il faut qu'il y ait, hein, un établissement et un fondement dans ces sciences-là qui est établi sur une sagesse dans, disons, le cheminement qu'une personne va faire à travers ces différentes sciences islamiques. C'est-à-dire que la personne, elle doit aller graduellement, étape par étape. On peut pas, par exemple, même dans les études de la dunya, il n'y a pas de meilleur exemple pour comprendre, hein. Lorsque tu vas apprendre à lire et à écrire, est-ce que tu vas tout de suite sortir, yani les grands livres difficiles et les gros volumes de littérature? Non. Tu vas commencer par les choses élémentaires, hein, l'alphabet et comment écrire et comment savoir les lettres, et ensuite tu vas évoluer graduellement jusqu'à ce que tu atteignes un niveau plus élevé de science et de compréhension. Eh bien, dans l'islam, c'est la même chose, et dans les différentes sciences islamiques, c'est la même chose. Maintenant, vous avez des jeunes, malheureusement, ils commencent avec des gros livres et des gros volumes, et ils pensent qu'ils peuvent apprendre la science islamique de cette manière. Et bien entendu, c'est incorrect. Celui qui n'a pas eu une bonne base et une bonne fondation dans sa compréhension de l'islam et qui saute tout de suite vers des gros volumes, c'est comme si quelqu'un, il est, hein, au primaire et il veut lire des livres de médecine, de doctorat et des trucs de ce genre. Il ne va pas être capable de comprendre, même s'il le lit, il ne va rien comprendre. Donc il faut aller graduellement, étape par étape, et suivre les directives que le cheikh, il va t'indiquer dans le processus, hein, que tu vas suivre pour étudier et apprendre les différentes sciences islamiques. Donc le cheikh, il dit que, par exemple, le cheikh, il dit que si tu vas commencer par l'aqida, hein, tu veux par exemple avoir une bonne base dans ce domaine-là, alors le cheikh, il dit que dans ce cas, tu dois commencer par étudier un livre qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, hein, les trois fondements de l'islam, Al-Usul al-Thalatha, écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc, ça c'est un petit livre, il est très simple, mais il résume les fondements de l'aqidah. Les trois fondements de l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est Man Rabbuk, Ma Dinuk, Wa Man Nabiyuk, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, c'est quoi les trois fondements de l'islam? C'est quoi qui est expliqué dans ce livre? Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? C'est ça l'usul al-thalatha, les trois fondements. Parce que ce sont ces trois questions-là que chacun d'entre nous, on va être questionné sur ces trois questions au jour de dans notre tombe. Hein? Quand on meurt, il y a deux anges qui viennent, Munkar et Nakir. Et ils nous posent trois questions. La première question, qui est ton prophète? La deuxième question, la première question, qui est ton Seigneur, qui est ton Rab? La deuxième question, quelle est ta religion? Et la troisième question, qui est ton prophète? Hein? Et ceux qui ont eu une bonne foi et qui ont été sincères dans leur religion et dans leur pratique, et qui ont appris leur religion, ils vont savoir répondre à ces trois questions-là. Tandis que les autres, soit que c'était ceux qui étaient des hypocrites, ou soit qui étaient des gens qui faisaient des péchés, ou qui étaient faibles dans leur foi, ils risquent d'être éprouvés au moment de ce questionnement-là, et certains, quand ils vont être questionnés par les anges, ils vont dire « Ah, ah, je sais pas, hein, ha, ha, la adri », comme c'est écrit dans le hadith. Hein, on va leur demander « Qui est ton Dieu ?»« Je sais pas. » Et on va lui demander « Quelle est ta religion ?» Il va dire « Je sais pas. » Et on va leur demander « Yannick, qui est ton prophète ?» Il va dire « Je sais pas. » Et Yannick, il va dire « Samia tunna siakuluna shay'an fakultu. » C'est-à-dire, j'ai entendu les gens dire quelque chose, et j'ai répété. C'est-à-dire que, ils disent, comme si en voulant dire, j'étais dans un pays, tout le monde était musulman, les gens disaient ça, et moi j'ai dit la même chose. Mais il n'a pas cru lui réellement, il n'avait pas la sincérité. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas capable de répondre. Et donc, cette petite risale, ce petit livre qui a été écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, il comprend les fondements et les bases de cette religion. Donc, Man Rabbuk, c'est qui notre Seigneur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur des cieux et de la terre, hein, le Maître de l'univers, celui qui est le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, en premier, de comprendre qui est ton Seigneur, c'est de comprendre le Tawhid, de comprendre l'unicité d'Allah, de comprendre la signification de la ilaha illallah. Ensuite, il y a la deuxième question, quelle est ta religion? Et cette religion, c'est quoi? C'est la religion du Tawhid. C'est la religion du Tawhid, hein? C'est l'islam, le message de tous les prophètes. Et la dernière question, même Nabiyuk, qui est ton prophète? Eh bien, c'est le prophète du Tawhid, le dernier prophète que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité. Hein? Et donc, ça c'est juste un petit résumé pour vous faire savoir et pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est Al-Usul al-Thalatha et que c'est ça le livre, un des livres les plus bénéfiques par lequel quelqu'un peut commencer pour apprendre dans le domaine qu'on appelle Al-Aqidah. Al-Aqidah, c'est-à-dire la croyance islamique. Mais il y a une chose que je voudrais juste mentionner, puisque le Cheikh il s'adresse à des gens qui sont arabophones, qui connaissent la langue arabe. Donc, pour eux, la première obligation et la première chose, c'est bien entendu, s'ils veulent apprendre l'aqida, ils doivent commencer par ces livres-là, mais il faut bien comprendre également que il faut étudier l'arabe en premier, si tu veux yani réellement avoir ou étudier l'islam de façon approfondie et avoir une compréhension et une connaissance de l'islam correcte. Hein, parce que tu ne peux pas étudier l'islam comme il faut dans une langue étrangère ou dans une langue de traduction. Hein. Donc il faut faire des efforts pour avoir quand même une bonne base en langue arabe. Maintenant aujourd'hui on a des problèmes justement chez les jeunes musulmans, et non seulement chez les jeunes mais chez d'autres également, qui n'ont pas étudié la langue arabe et qui étudient l'islam, mais parfois ils font des efforts pour apprendre, mais étant donné qu'ils ont une limitation au niveau de la langue, eh bien, ils tombent dans beaucoup d'erreurs de compréhension, dans beaucoup de fautes. Donc, il faut faire attention, mettre de l'effort en premier pour comprendre bien comme il faut la langue arabe, parce que c'est la clé pour le reste, c'est la clé pour la science islamique. Donc, ça c'est important. Et ensuite, le cheikh, il continue dans les explications par rapport à l'aqidah, il dit également, ensuite, il dit « Thumma al-qawa'id al-arba'a ma'a kishf al-shubuhat ma'a risalati usul al-iman hadihi al-rasail tu'tabaru fi bab al-i'tiqad min al-usul allati yanbani alayha ghayruha min ulum al-shari'ah fa'idha tawalla tibyanaha sahib al-aqidah al-salafiyya al-sahiha wa nahjin salafiyyan فكذلك سطع النور من خلالها للطالب. Le chef, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que par la suite, après avoir étudié Al-Usul al-Thalatha, il y a un autre livre qu'on appelle Al-Qawa'id al-Arba'a, c'est-à-dire les quatre règles, écrit également par le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ce petit livre, Al-Qawa'id al-Arba'a, c'est tout petit, ça peut passer sur 6 pages, même moins que ça des fois. Et dans cette petite risale-là, il y a des explications sur les questions de tawhid, de l'unicité d'Allah, pour répondre aux arguments de gens qui appellent à l'association avec Allah ou au shirk, des gens qui appellent à l'adoration des morts ou des tombes. Hein, comment leur répondre et comment réfuter leurs arguments et leurs shubuhat. C'est un très très bon livre. Et un livre très bénéfique, également un livre qui s'appelle Kashf al-Shubuhat. Ce livre-là, Kashf al-Shubuhat, il clarifie également comment répondre aux ambiguïtés et aux doutes et aux mensonges des gens qui appellent à l'idolâtrie et au shirk. Okay? Et il y a également une risale qu'on appelle Usulul Iman, les fondements de la foi, qui explique les six piliers de la foi. Ça, c'est un petit résumé qui est très bénéfique, hein, et qui est écrit par Cheikh Mohammed ibn Husaymin, et aussi il y a d'autres chouyours qui l'ont écrit une risale avec le même titre, hein, parmi les ulama. Donc ça, c'est un bon livre pour commencer également, pour avoir une bonne compréhension, de l'Iman. Et, le Cheikh il dit, وَهَذِ الرَّسَائِلْ تُعْتَبَرُ. Donc il dit ces petits livres sont tout petits, hein, en format, c'est pas des gros livres, mais ce sont des fondements, ce sont des bases sur lesquelles tu vas établir tout le reste de ta compréhension et de ta connaissance de l'islam. D'accord? Et ça va faire en sorte que le reste de ce que tu vas étudier, hein, il va être basé sur une compréhension et une connaissance solide et profonde de l'islam et du tawhid et des règles de la religion. Et en particulier si tu les étudies avec un cheikh et il te donne également une explication détaillée des sens de qu'est-ce qui est compris dans ces livres-là. Parce qu'alhamdoulillah, des ulama de l'islam ont écrit qu'est-ce qu'on appelle des shurouh, le pluriel du mot sharh. Sharh qui veut dire des explications, une tafsir, des explications des termes qui sont mentionnés dans ces livres-là. D'accord? Donc avec ces livres de qu'est-ce qu'on appelle des shurouh, on peut arriver à avoir une compréhension encore plus approfondie des détails qui sont mentionnés dans ces livres-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider encore plus par la suite à avoir une bonne base dans la compréhension islamique. Ensuite, le cheikh il dit, Naam. وانتقل إلى ما هو أرفع منها مستوى ككتاب التوحيد ثم ينتقل من كتاب التوحيد إلى العقيدة الواسطية للإمام المجدد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم بقية كتبه كالحموية والتدمرية ثم العقيدة الطحاوية لشيخ الدي. Puis il monte en degré par la suite, il augmente son degré, il monte parce que là il a une base, maintenant il peut commencer à aller vers quelque chose d'un petit peu plus compliqué, hein, et donc il peut commencer à étudier maintenant Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid aussi c'est une risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur Tawhid al-Ibada, qui explique les principes et les fondements et les règles de l'unicité d'Allah dans l'adoration, et dans ce livre-là, hein, qui contient environ une soixantaine de chapitres. Dans chacun de ces chapitres, il réfute et il clarifie des principes du tawhid et yani, des réfutations de certains aspects ou certaines formes de shirk ou d'idolâtrie, hein, qui sont pratiquées par certains musulmans aujourd'hui dans le monde musulman. Donc ça c'est un livre très important, très bénéfique. Chaque musulman doit avoir une base dans la compréhension de ce livre-là. Ensuite, il passe de ce livre-là vers un autre livre qu'on appelle Al-Aqidatul Al-Wasitiyya. Al-Aqidatul Wasitiyya, c'est une petite risale, encore une fois, écrite par le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et cette risale-là, Ibn Taymiyyah, il est mort, hein, 728 Hijri. Donc c'est un des ulama des siècles passés. Donc, yani, cette risala, c'est une risala qui explique Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, d'accord, pour éviter de tomber dans l'idolâtrie, tomber dans le shirk, dans certains aspects qui sont reliés, yani, à Tawhid al-Asma wa Sifat. Et ça, c'est très important ce livre-là. Et quand vous ouvrez le livre, hein, il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il contient? C'est des preuves du Coran et de la Sunna au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très intéressant et très important de l'étudier. Ensuite, il y a le reste des livres de Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme par exemple Al-Hamawiyyah et Al-Tadmuriyyah, et par la suite Al-Aqidatul Tahawiyyah, écrit par l'imam Al-Tahawi, qui est un des imams parmi les imams des salafs. Donc ça c'est les livres de base, hein, et ça c'est un niveau un peu plus élevé que ceux qu'on a mentionnés au tout début. Hein. Et donc vous trouvez avec, vous lisez ces livres-là au Cheikh et il vous les explique au fur et à mesure. D'accord? Et après par la suite, le Cheikh il dit que, il dit « wa thumma wa ba'da dhalika » يستطيع أن يقرأ في السنن التي تتعلق ببيان السنة والتحذير من البدع وهي السنن المعروفة كأصول الاعتقاد للالكائي وكتاب السنة للخلال وكتاب السنة لعبد الله ابن أحمد وكتاب الإبانة للعكبري وكتاب التوحيد لابن خزيمة إلى غير ذلك من الكتب التي تعني بهذا الفن. Le Cheikh il dit, et par la suite, il peut commencer à lire également d'autres livres parmi les livres des Sunan qui sont reliés, c'est-à-dire des livres qui rapportent les exemples, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des salafs au sujet de la Aqidah, comme par exemple les différents livres de Sunnah, qui, il y en a des livres qui ont été écrits par les imams des salafs qui incitent à s'accrocher et à suivre la Sunnah et qui avertissent contre les innovations, les bid'ah, et on appelle ces livres-là par différents noms, comme Usul Sunnah, le livre de l'imam Al-Lalaka'i. Le titre au complet, c'est Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ce livre-là, c'est un livre dans lequel l'imam Al-Lalaka'i, qui est mort en 418, il réunit les croyances des imams des salafs. Et ils rapportent leurs paroles avec les chaînes de transmission hein, de ces imams-là jusqu'à lui, hein, ou bien de lui jusqu'à ces imams, d'accord. Et ça c'est un livre parmi les livres les plus, disons, complets, parce qu'il réunit un nombre très large de citations et de rapports et de narrations des imams des salafs à différents sujets de l'aqidah. Hein, et il réfute dans chacun des chapitres différents fondements des sectes d'égarement, parmi les sectes d'égarement qui se sont introduits parmi les musulmans à travers les siècles. Donc tu retrouves que dans ces livres-là, ils vont réfuter les Khawarij, ils vont réfuter les Murji'a, ils vont réfuter les Qadariya, ils vont réfuter les Soufiya, ils vont réfuter les Mu'tazila, les Jahmiya et les Asha'ira et différentes Turq. Et différentes voies d'égarement. Donc, tout ça avec des preuves du Coran, des preuves de la Sunna et des preuves des citations et des paroles des imams des salafs qui vivaient à l'époque de ces jeunes bid'a qui les ont réfutés. Donc, le premier, l'imam Al-Lalaka'i, ce livre-là, il y a le livre de l'imam Al-Khalal qui s'appelle As-Sunna aussi. Et quand les imams ils appellent ces livres quand ils les appellent As-Sunna, en fait, ça veut dire l'aqidah, hein. Ça veut dire l'aqidah. Quand il parle de sunna ici, c'est dans le sens de l'aqidah. Ou dans le sens de la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre, ainsi que la voie de ses compagnons. Et la voie des tabi'in, de ceux qui les ont suivis dans le bien. Hein. Il y a al-sunna de l'imam al-Khalal, et al-Khalal, c'est un des élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a kitab al-sunna de l'imam Ahmad aussi, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a le kitab sunna de son fils, du fils de l'imam Ahmad qui s'appelait Abdullah. Hein? Et il y a également un livre qui s'appelle Al-Ibana, écrit par l'imam Al-Akbari. Et il y a aussi kitab Al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma, hein? Un des imams parmi les imams des salafs, qui est mort en 311 Hijri, et qu'on appelait Cheikh al-Islam aussi. Donc c'est un des grands imams. Et ça c'est pour réfuter ceux qui pensent que la da'wa salafiyya, ou le manhaj des salafs, ou la aqidah d'Ahl Sunnah, c'est quelque chose qui est amené par Ibn Taymiyyah seulement. Et ça c'est faux. Bien, on voit ici que l'imam Ibn Khuzaymah qui est mort en l'an 311, bien avant Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est mort en 728. Donc des siècles avant Ibn Taymiyyah. Hein? L'imam Al-Khalal, lui aussi est mort en 311. Et l'imam Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad, il est mort en 290. Et sans mentionner les autres imams qui vivaient avant, qui étaient tous sur la voie et la aqidah des salafs. Donc, c'est pas quelque chose qui est inventé par Muhammad ibn Abdul Wahhab, Et ce n'est pas quelque chose qui est inventé par Ibn Taymiyyah, c'est quelque chose qui existait depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été transmis à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Contrairement à ce que certains essaient de prétendre, hein, la da'wa salafia, ils disent « Ah, ça c'est inventé par Ibn Taymiyyah » ou « Ça c'est inventé par Muhammad ibn Abdul Wahhab ». Non. Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab ne sont que deux parmi les savants qui ont appelé à cette voie. Mais sinon, tous les sahaba, les tabi'in et les tabi'in ont tous appelé à cette voie. Une seule et même voie. Un seul et unique islam. Hein? Donc c'est ça, ça c'est important de le comprendre très bien. Après, il y a également d'autres livres qui sont, qui parlent ou qui clarifient ces différents aspects de la croyance islamique. Le cheikh il dit ensuite, وأما ما يتعلق بالتفسير فالذي أختاره لطلاب العلم هو كتاب ابن كثير رحمه الله وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وأخص مختصر تفسير ابن كثير لمحب بن نسيب الرفاعي لأن صاحبه نهج في الاختصار منهج السلف حسب علمه ثم إذا استطاع أن يتخرج في هذه الكتب فليأخذ تفسير البغوي وما عدا ذلك من التفاسير إذا ذهب يقرأ فيها يطلع على ما فيها بعد قراءة تلك الكتب يكون قد أبصر إن وجد شيئا من التأويل المذموم فيها كما في تفسير القرطبي والتفاسير الأخرى كتفسير ابن الجوزي وتفسير الشوكاني. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les livres de tafsir et la science du tafsir, c'est-à-dire l'interprétation et la compréhension du Coran, en ce qui concerne cette science, ce que je choisis pour les étudiants, c'est le livre de Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir. Ça c'est un des meilleurs tafsirs. Et Ibn Kathir est un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il est mort en 774 Hijri. Et son tafsir s'appelle Tafsir al-Qur'an al-Azim. D'accord? Et c'est un des tafsirs les plus célèbres. Et il se réfère à la méthode, à la méthodologie des salafs pour faire le tafsir du Qur'an. Hein? C'est-à-dire, il interprète le Qur'an par le Qur'an, puis le Qur'an par les hadiths, puis le Qur'an par les paroles des sahaba, puis le Qur'an par les paroles des tabi'in et par la langue arabe. Donc ça c'est la méthodologie des ulama qui suivent la voie des salaf quand ils expliquent le Coran. Ils ne se basent pas sur des rêves, ils ne se basent pas sur leur imagination, ils ne se basent pas sur leur raison, ils se basent sur la révélation pour expliquer et comprendre le Coran. Le cheikh il dit qu'il y a également un autre tafsir qui est le tafsir de l'imam Abdurrahman al-Sa'di. Et ça s'appelle Taysir al-Rahman, Taysir al-Aziz al-Rahman. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le titre de son tafsir, et il est mort, le cheikh, en 1376. C'est le cheikh, le professeur de un des chouyoukhs de Muhammad, cheikh Muhammad ibn Uthaymeen, rahimahullah, c'était son cheikh qui a écrit ce tafsir. Et le cheikh Muhammad ibn Uthaymeen, il a un tafsir lui aussi, de certains versets dans le Coran, et il explique, et il détaille le tafsir de son cheikh. Hein? Donc, ça c'est un bon tafsir aussi, le tafsir de l'imam Sa'di. Pourquoi? Parce que dans ce tafsir, il suit la méthodologie et la compréhension des salafs pour expliquer les versets, et non seulement ça, c'est un tafsir qui est simple, qui est très facile, et qui est merveilleux pour les débutants, quelqu'un qui commence dans le tafsir et dans la compréhension de l'islam, ça c'est un des meilleurs tafsirs pour commencer. Hein, il est simple, il est précis, et puis l'auteur de ce tafsir, il a une bonne aqidah, et donc il ne va pas rentrer rien de qu'est-ce qui est contraire à la aqidah des salaf dans son tafsir. Hein, la même chose que l'imam Ibn Kathir aussi. Donc ensuite, le cheikh il dit qu'il y a un bon mukhtasar, un bon petit résumé, de Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir, écrit par Muhammad Nasib al-Rifa'i. Il dit selon sa connaissance, c'est un tafsir qui est bien un bon résumé de Ibn Kathir, parce que Muhammad Nasib al-Rifa'i, dans son manhaj, il a suivi la voie des salaf dans la compréhension de ce tafsir. Donc c'est un bon résumé pour quelqu'un qui cherche un résumé. Pourquoi? Parce que parfois Ibn Kathir, yani rahimahullah, il mentionne des hadiths et il cite les chaînes de transmission et il cite beaucoup de choses également. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, le chef? Parce que par exemple, si Ibn Kathir il parle d'un sujet, parfois il va mentionner plein de différentes versions d'un même hadith en citant différentes chaînes de narrateurs, etc. Donc le chef Mohamed Nassib al-Rifa'i, il le résume et il va comme enlever les chaînes de transmission puis garder uniquement le texte. Et donc ça simplifie et c'est plus facile pour quelqu'un qui est débutant de profiter, de bénéficier de qu'est-ce qui est dans ce tafsir. Ensuite, le cheikh il dit que si quelqu'un est capable d'étudier ces deux livres-là avec un cheikh par la suite, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il lise Tafsir al-Baraoui. Il prend Tafsir al-Baraoui, qui est mort en 516, un des grands ulama. Et il dit par la suite, les autres tafsirs, s'il a besoin de vérifier quelque chose dedans, et de chercher quelque chose dans ces autres livres de tafsir, eh bien, yani, il va être capable de profiter de ces livres-là, puis de s'écarter de ce qui est contraire à la voie des salafs dedans. Parce qu'il y a d'autres savants de tafsir qui, malheureusement, n'ont pas suivi la voie des salafs dans leur interprétation du Coran, et ils ont fait certaines erreurs, dans le sens qu'ils ont parfois déformé le sens de certaines des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comme Tafsir al-Qurtubi et Tafsir al-Shawkani et Tafsir ibn al-Jawzi. Donc, quelqu'un qui a une bonne base maintenant dans l'aqidah parce qu'il a étudié l'aqidah et qu'il a une bonne base dans le Tafsir parce qu'il a étudié Tafsir ibn Kathir et Tafsir, Tafsir al-Sa'di et ses livres de Tafsir, étant donné qu'il a une bonne base maintenant, eh bien, il est capable de lire dans ces autres livres de tafsir là dans lesquels il y a certaines erreurs, parce qu'il les connaît, il a une bonne base, il est capable de distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et donc éviter de tomber dans ces erreurs-là. Hein? Et bien entendu, c'est pas pour les débutants de rentrer dans ces tafsirs-là, mais ceux qui ont déjà une base, qui sont déjà avancés, ceux-là, ils peuvent profiter de ça. Après le cheikh il dit ومع ان هذا في هذه التفاسير الخير الكثير والعلم الغزير الا ان مؤلفيها رحمه الله عليهم وقعوا في تاويل بعض النصوص الصفات وهو قليل في شيء من التاويل وافقوا فيه من اول في من او من اول بعض نصوص القرآن والسنة تأويلا مذموما ولذلك أسباب أشهرها حسب علمي ثلاثة أحدها البيئة التي يعيش فيها المفسر الثاني المشيخة الذين يأخذوا عن على أيديهم العلم والثالث التتلمذ على الكتب فللتتلمذ على الكتب Le cheikh il dit que les imams qu'on a mentionnés comme Al-Qurtubi et Ibn al-Jawzi et Al-Shawkani, malgré que ce sont des tafsirs dans lesquels il y a beaucoup de bien et une grande science, sauf que les auteurs de ces tafsirs sont tombés dans des déformations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait le ta'wil de certaines des attributs. Et je pense que vous connaissez un peu les exemples de ces différentes formes de ta'wil qui sont pratiquées par les gens qui suivent la aqida des Asha'ira ou la aqida des Maturidiyya. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ceux qui ont hérité, ils ont hérité ça des Jahmiyya, des Mu'tazila. Quand ils lisent une ayah et ils trouvent dans cette ayah que Allah subhanahu wa ta'ala se décrit par un de ses attributs, eux ils viennent et ils déforment le sens de cet attribut-là et ils disent autre chose. Comme par exemple, si ils voient que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a une main dans un verset, eux ils vont dire non, ça veut pas dire main, la main ça veut dire la force, ou ça veut dire la grâce, ou ça veut dire autre chose. quand ils lisent un ayah, une ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône, eux ils vont déformer la signification de ce verset-là et ils vont dire non, ça ça veut pas dire que Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire que Allah a conquis le trône et qu'il a pris le pouvoir du trône. Ça c'est des déformations du sens réel des versets et c'est contraire à la compréhension des salaf salih. Et donc ça c'est une erreur. On doit accepter et croire aux versets du Coran qui parlent des attributs d'Allah tels qu'ils sont mentionnés sans faire de ressemblance ou sans essayer d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala est et comment il s'est élevé au-dessus de son trône, comment est sa main, comment sont ses yeux et des choses de ce genre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » Il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc on affirme l'attribut d'Allah tel qu'il s'est décrit lui-même sans toutefois faire de ressemblance entre lui et sa création et on ne demande pas ou on ne cherche pas à imaginer ou à savoir le commun de ses attributs. D'accord? Ça c'est la voix des salafs. Et le cheikh ensuite il dit donc que ces imams dans le tafsir ils ont fait quelques erreurs à ce sujet-là en déformant certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna. Et il y a trois raisons, parmi les raisons qui ont amené ces savants à faire ces erreurs-là dans la compréhension des attributs d'Allah, il y a trois causes qui sont parmi les causes les plus populaires ou les plus connues. Et ces raisons-là, c'est quoi? Premièrement, le contexte et l'environnement dans lequel ces savants-là vivaient. Hein? Parce que tout le monde est affecté par le contexte et l'environnement dans lequel il vit. D'accord? Et ça, ça fait comprendre que parfois certains de ces savants-là ont vécu dans des contextes ou dans des environnements où il y avait beaucoup de mauvaises compréhensions qui avaient été répandues au sujet de ces choses-là. Donc ça a pu influencer leur façon de comprendre les questions d'aqida ou de la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, également les chouyoukh avec qui ils ont étudié. Donc certains d'entre eux, parmi les savants avec lesquels ils ont étudié, il y avait des savants peut-être qui avaient ces erreurs-là. Et ils ont absorbé une part de cet égarement-là, ou de cette voie incorrecte. Et donc ils ont commis cette erreur-là. Une des raisons pourquoi ils l'ont fait, c'est à cause des savants qu'ils ont suivis aveuglément parfois dans certaines questions. D'accord? Et la troisième explication ou raison, c'est à cause du fait qu'ils ont étudié en se basant sur des livres. Et bien entendu, parfois, quelqu'un qui se base uniquement sur les livres, il peut facilement se tromper. Et bien entendu, yani, ce sont des ulama de l'islam, parmi les ulama d'Ahl Sunnah, et on les respecte et on les aime. Même s'ils sont tombés dans ces erreurs-là, hein, et on dit qu'ils ont fait un effort pour arriver à comprendre et à connaître la vérité, toutefois ils se sont trompés et ils ont fait une erreur. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner pour ces erreurs-là, parce qu'ils ont été sincères. Et la preuve qu'ils ont été sincères, c'est que la base de leur voie et de leur méthodologie est en accord avec le Coran et la Sunna. Et ils sont sur la voie de Ahl-Sunnah dans le reste de leur religion. Sauf que dans cette question-là, ils ont fait une erreur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner, va excuser ces erreurs-là de leur part. Tandis que les gens de bid'ah qui ont comme fondement l'égarement et l'innovation, ceux-là, ils ne sont pas excusés. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils sont en opposition à la Sunna et en opposition au Coran. Et ça réfute les gens aujourd'hui qui essaient de défendre Sayyid Qutb dans son tafsir fi dhilal al-Qur'an par exemple. Et ils vont dire, ou ils vont essayer de faire des comparaisons entre Sayyid Qutb et les imams de tafsir de l'islam. Et il n'y a pas de comparaison entre les deux. Parce que Sayyid Qutb n'était pas un savant de l'islam. Et il était un journaliste et un écrivain, un homme littéraire. Il n'était pas un savant de la religion musulmane. Et il n'a pas été connu comme étant quelqu'un qui a étudié l'islam avec aucun parmi les savants de la religion musulmane. Donc, on ne peut pas le comparer, lui, avec les grands savants de l'islam qui ont écrit des tafsirs. Et quand tu lis leur tafsir, tu retrouves plein d'informations et plein de connaissances dans le tafsir par rapport au fiqh, par rapport à l'aqida, par rapport aux règles de la charia, par rapport à la langue arabe, plein de fawa'id, plein de bienfaits que tu peux extraire de leurs livres de tafsir, malgré les erreurs qu'ils ont faites dans certaines explications de certains attributs. Mais en général, leur tafsir, pour les gens qui ont une base et qui connaissent bien l'islam, ils sont capables d'éviter et de s'écarter de ces erreurs-là. Tandis que les tafsirs politiques, les tafsirs extrémistes comme le tafsir de Sayyid Qutb et d'autres, qui déclarent les sociétés musulmanes comme étant kuffars et qui appellent à l'extrémisme et des choses de ce genre, eh bien ceux-là, ils n'ont aucun bienfait dans leur tafsir. Et beaucoup de gens sont tombés dans l'égarement et dans l'extrémisme à cause des mauvaises influences qui sont contenues dans ces livres de tafsir-là. Donc c'est très important de faire attention. Non seulement il y a des formes d'extrémisme dedans et de takfir des musulmans, mais il y a également des erreurs dans la déformation des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et également dans aussi le fait qu'il interprète incorrectement le tawhid et il explique incorrectement plusieurs principes comme le fait d'appeler à la croyance des hérétiques parmi les soufis qu'on appelle wahdatul wujud, c'est-à-dire de croire que Allah est tout et que tout est Allah et qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe et que c'est Allah. Donc ça c'est la aqida des soufis qu'ils expriment dans leur croyance et dans leurs livres. Et Sayyid Qutb dans son tafsir de Surat al-Ikhlas, il appelle à cette fausse aqida là. Donc ça c'est des exemples d'erreurs, et les ulama, parmi les ulama de l'islam, ils ont déclaré cette aqida comme étant kufr. Hein? Donc c'est pour ça Yannick, que c'est très dangereux de propager et de se référer à ce genre de tafsir qui ne retourne pas à la méthodologie des ulama pour expliquer le Coran, mais qui se base uniquement sur leurs propres opinions ou l'interprétation de l'islam selon leur selon des événements politiques ou selon d'autres façons d'interpréter, mais qui ne suit pas la méthodologie des salaf. Donc ça c'est en ce qui concerne le tafsir, on a complété ces parties-là. D'accord, donc on peut faire une pause, Inch'Allah, si vous voulez, le temps de prendre un peu, de faire votre wudu, préparer pour la salat et tout, puis on continuera, Inch'Allah, si vous voulez, après l'Asr, bi'iznillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi. Fika baraka.